So it's person, woman.
Ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits.
Fillon, voilà, il est en face de moi.
Person, woman, man, camera, TV.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Loupe. Il y a quelques temps, avant cette petite pause estivale qui était très longue, on vous parlait de l'histoire des mouvements féministes en Égypte et on a essayé de comprendre ensemble comment des révolutions féministes naissaient, quelles difficultés elles rencontraient et pour quels résultats. Et bien tout ça nous a fait nous poser des questions et réfléchir à un autre sujet, une autre évolution qui peut-être pointe le bout de son nez. Elle est très différente et beaucoup plus proche de nous géographiquement. Et à vrai dire, elle est proche de tout le monde si tant est qu'on ait une salle de concert à proximité ou des disques chez soi. Aujourd'hui, on va se poser la question de la place des femmes dans la musique classique. Et ceci étant dit, comme on aime bien les sujets inattendus, on va pas vous parler des interprètes, mais des compositrices. En effet, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Autour de vous, demandez à des gens s'ils connaissent des compositeurs. Et normalement, les gens auront quelques noms, Mozart, Bach, Beethoven, parfois Chopin, Schubert, Ravel, Debussy, etc. Et si vous êtes face à un ou une mélomane, vous allez avoir une liste beaucoup plus longue, évidemment. Et après, demandez à ces personnes si ils ou elles connaissent des compositrices. Et forte chance que, lors de votre expérience, vous fassiez face à un silence un peu gêné, qui est, ma foi, tout à fait légitime, puisque nous avons été très peu habitués à entendre de la musique de compositrice. Pour nous décortiquer tout ça, et pour la première fois dans ce podcast, on a une invitée, en fait on est allé poser nos questions sur le sujet à Clara Leonardi, qui est cofondatrice de l'association Composeur, une asso dans laquelle, pour le petit disclaimer, je suis également bénévole, et une asso qu'elle nous présente brièvement.
Le but de l'asso, c'est de promouvoir le travail des femmes dans la musique classique. Mais les femmes, ça peut être des instrumentistes, des chefs d'orchestre, des metteuses en scène, pourquoi pas, mais surtout des compositrices. Donc on parle vraiment beaucoup de compositrices. Et pour promouvoir leur travail, on a différents types d'actions. On a un peu un pôle média, où on va beaucoup parler de tout ce qu'elles font, en écrivant des articles, en publiant des critiques de concerts et de disques, et en publiant des interviews. Et on a un aspect plus centre de ressources. Donc on va éditer des partitions qui n'ont jamais été éditées et qui sont quand même libres de droit à partir de manuscrits qu'on va trouver de l'époque, par exemple. On va donner des conseils aux interprètes et on va faire des playlists pour les mélomanes qui auraient envie de découvrir des compositrices.
Et donc, sans plus tarder, la première chose qu'on lui a demandé, c'est un petit bilan de la situation actuelle dans ce domaine.
Alors, ça peut aller assez rapidement. En fait, si on dit très simplement déjà que les compositrices sont très peu programmées, de façon générale, donc elles représentent une part infime des œuvres programmées en concert par les orchestres et par les groupes de musique de chambre. Il y a une enquête de l'AFO, donc c'est l'Association française des orchestres, en 2018, qui montrait que seulement 3% des œuvres programmées par les orchestres sont composées par des femmes. Et outre la question de la programmation, il y a un vrai problème de représentation. Il y a très très peu de figures historiques femmes féminines qui sont célèbres. Il y a très peu de femmes qui sont présentées dans les histoires de la musique. Et il y a une vraie idée qui persiste encore aujourd'hui, qu'il y aurait une musique de femmes composée par les femmes qui serait différente de celle composée par les hommes. Et donc moins bien, enfin, ça va avec quand même. Et les femmes qui sont programmées aujourd'hui sont quand même en grande partie issues de l'univers de la musique contemporaine, ce qui est génial parce qu'il y a plein de compositrices formidables aujourd'hui, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément les concerts qui vont attirer le plus de public parce que c'est des concerts un peu plus confidentiels.
Il est vrai que les chiffres sont particulièrement parlants. En 2018, une enquête du site Backtrack démontrait que seulement 12% de la musique programmée en concert était de la musique écrite par des compositrices. Mais derrière ce chiffre se cachent de grandes disparités. Si c'est 37% en Suède, la France et l'Allemagne sont à la traîne avec un petit 5%. Et plus on cherche dans des institutions ou dans des situations prestigieuses, plus ce chiffre chute. L'enquête de l'AFO montre que les spectacles jeunes publics ou à petit effectif, donc à échelle et à rayonnement souvent beaucoup plus réduit, sont ceux qui restent le plus susceptibles de programmer des œuvres de compositrices. Mais, à l'inverse, elles sont quasiment inexistantes des programmes d'orchestre symphonique. La question qui se pose logiquement, du coup, c'est pourquoi ?
Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette rareté dans la programmation. D'abord, sans doute, effectivement, elles ont été un peu moins nombreuses que les hommes à composer. Ça, c'était moins facile de rentrer au conservatoire pour une femme, c'était moins facile de se former à la composition. Donc, c'est plutôt logique que à la fin, il y a eu quand même un peu moins de femmes que d'hommes qui se sont essayées à la composition. Mais il y en a quand même un grand nombre. Certaines compositrices qui ont réussi à se former et à exercer ont aussi moins composé en quantité. Elles ont par exemple arrêté de composer après leur mariage ou alors elles ont eu des difficultés à exercer le métier, on va dire, de compositrice en complément du métier de mère, d'épouse, etc., qui pouvait prendre beaucoup de temps. En revanche, je pense que cette relative rareté des compositrices ne suffit pas du tout à expliquer la rareté des compositrices dans les programmations.
Là, on touche du doigt ce qui est un petit peu le cœur de notre propos, c'est-à-dire ce qui justifie cette absence, ce manque, cette discrimination, comme vous voudrez. Comme vous vous en doutez, ces explications, elles sont à trouver dans les sciences humaines. Les historiens et sociologues de l'art, et de la musique classique en particulier, ont établi depuis de nombreuses années le caractère éminemment genré de la pratique musicale, quelle qu'elle soit. Par exemple, l'ouvrage collectif « L'accès des femmes à l'expression musicale, apprentissage, création, interprétation » sous-titre « Les musiciennes dans la société » est un des ouvrages de référence sur la question et démontre par exemple qu'au commencement de l'apprentissage, comme plus tard dans la pratique professionnelle, les femmes et les hommes étaient séparés et avaient tendance à être sectorisés dans leur pratique de la musique, souvent soulevant des questions de domination masculine et de rapport au corps. Pour donner des exemples concrets à ces considérations théoriques, on peut citer la contribution de Hyacinthe Ravet, qui note dans le livre que les femmes sont incitées à jouer un instrument, je cite, ouvrez les guillemets, « symboliquement tourné du côté du féminin par leur forme, leur tenue ou leur jeu ». Fin de citation. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer, il y a beaucoup de femmes dans les instruments à cordes frottées comme le violon et très peu dans les cuivres ou les percussions, ces postes-là incombant plutôt à des hommes. Des phénomènes similaires sont à déceler dans la pratique de la composition.
Il y a énormément de raisons qui peuvent être identifiées. Mais déjà, même une fois qu'une femme a pu se former à la composition et commencer à écrire, elle va rencontrer de nombreux obstacles au fur et à mesure de sa carrière. Je parle là principalement des compositrices historiques, parce que bien sûr, c'est un peu différent aujourd'hui quand même, ça va un peu mieux. Une femme du 19e siècle, par exemple, donc si elle voulait devenir un moment compositrice, elle devait d'abord avoir accès à des éditeurs. C'est pas forcément facile d'avoir accès à un éditeur quand on est une femme pour faire éditer sa musique. Ensuite, ça va être extrêmement difficile de pouvoir faire jouer ses œuvres, parce qu'il faut réunir des musiciens qui sont peut-être des hommes, qui évoluent dans un certain réseau auquel on n'a pas accès. Ensuite, il va falloir trouver une salle peut-être pour programmer ses œuvres et qu'elles sortent du milieu seulement des salons. Plein de compositeurs très célèbres du 19e en France ont fait beaucoup jouer à l'opéra, c'était un milieu qui n'était pas très ouvert aux femmes. Donc ça va déjà en fait, engendrer des difficultés pour les compositrices à progresser, parce que faire jouer ses œuvres, ben, c'est super de pouvoir les entendre, de pouvoir échanger avec les instrumentistes, ça apprend aussi beaucoup. Et ensuite, ça va bien sûr empêcher d'ancrer les œuvres dans le paysage musical et dans l'histoire de la musique, parce qu'une œuvre qui n'est pas jouée au concert ou qui est peu jouée ne va pas être beaucoup critiquée, ne va pas faire beaucoup parler d'elle, et donc on va l'oublier plus rapidement. Ensuite, il y a eu une vraie misogynie des musicologues, et ça fait que c'est beaucoup plus difficile de les retrouver aujourd'hui, ces compositrices du passé qui ont été effacées de l'histoire, mais volontairement finalement. Et en prime, il y a bien sûr des préjugés. On va penser que la musique de femme, c'est une musique douce, peut-être une musique vraiment seulement une musique de salon qui a vocation uniquement à distraire et donc qui n'est pas très intéressante. On va penser aussi que si on ne connaît pas les compositrices, c'est parce qu'elles n'étaient pas bonnes, alors que c'est pas le cas, c'est vraiment pas du tout le cas. Et ensuite, on a tous bien sûr une petite absence de curiosité qui fait qu'on va plutôt avoir tendance à aller vers quelque chose qu'on connaît déjà par rapport à quelque chose qu'on ne connaîtrait pas et dont on ne connaît pas la qualité du coup. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs pistes qui rendent le fait que dans la musique classique, ce soit plus difficile pour une femme de s'en sortir que dans d'autres arts. La première, c'est l'importance des institutions. C'est quand même un milieu assez institutionnalisé. Pour éditer un livre, bon, ben, on édite le livre et ensuite on va pouvoir le vendre et les gens vont pouvoir le lire. En musique classique, éditer une partition ne suffit pas, il faut la faire jouer. La faire jouer ne suffit pas à ce qu'elle reçoive de bonnes critiques, il faut qu'elle soit bien jouée. Et bien jouer une œuvre ne suffit pas à la faire rentrer dans la mémoire collective, il faut qu'elle soit bien jouée beaucoup de fois et ensuite, éventuellement au XXe siècle, qu'elle soit enregistrée. En fait, à toutes ces étapes, les compositrices rencontrent des difficultés. Que du coup, ne rencontreraient peut-être pas des autrices qui souhaiteraient faire publier leurs œuvres. Bon, bien sûr, je ne suis pas du tout spécialiste, donc c'est plus une supposition de ma part. Et par ailleurs, en musique classique, j'ai l'impression, mais c'est encore une impression, qu'il y a encore plus que dans d'autres formes d'art, un succès des tubes. Peut-être encore plus qu'en littérature, on réécoute beaucoup les mêmes morceaux. Je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes de littérature qui vont relire 40 fois Madame Bovary, mais le grand public ne relit pas 40 fois Madame Bovary. Alors qu'en musique, le grand public écoute 40 fois la 9e symphonie de Beethoven et ça ne pose de problème à personne. Donc en fait, ça... Si on écoute assez peu de musique classique, ça, quand même, ça empêche un peu la découverte, parce qu'on va rester dans quelque chose qu'on connaît, on écoute uniquement des chefs-d'œuvre qui sont magnifiques, hein, mais qu'on connaît déjà, et ça va empêcher de découvrir tout ce qui existe par ailleurs, pas seulement les compositrices, mais aussi les compositeurs contemporains, ça a pu entraver le mouvement de redécouverte de la musique baroque, etc. Et donc ça, c'est un vrai phénomène qui, je pense, est propre à la musique classique.
Si maintenant on regarde certains destins individuels, on peut penser à des compositrices comme Clara Schumann, qui fréquentait un milieu de compositeurs, son mari Robert Schumann au premier plan, c'était une des pianistes les plus réputées de son époque. On peut penser à la compositrice du Moyen-Âge Hildegarde de Bingen, qui était une femme très importante au Moyen-Âge, qui est devenue sainte de l'Église catholique. On pense à Hélène de Mongeroux, qui était une pédagogue de premier plan, et ses études pour piano ont fait autorité pendant longtemps, longtemps dans l'apprentissage de l'instrument. Ethel Smith, qui a été anoblie en Grande-Bretagne pour son œuvre et pour son engagement de suffragette et qui a même travaillé avec Brahms. Enfin, toutes ont plus ou moins eu une carrière parfois impressionnante et pourtant sans tomber dans l'oubli, quand bien même elle semblait partir pour une postérité prometteuse. Dans l'entretien qu'on a eu avec elle, Clara nous rappelait que le point commun qu'ont presque toutes ces compositrices est d'avoir connu, en leur temps et après leur mort, le dédain des musicologues, des critiques, des programmateurs, alors même que parfois leur musique était acclamée par le public, voire même par leur père compositeur masculin. Leur vie n'en demeure pas moins passionnante et explicite de toutes ces difficultés. On peut s'attarder un peu sur Clara Schumann, par exemple, née Vic. Fille d'un professeur de piano, elle se révèle rapidement être une concertiste brillante. Elle est remarquée par les têtes couronnées européennes et par les grands noms de la musique de l'époque, comme par exemple Frédéric Chopin. Parallèlement, elle s'épanouit dans la composition. Elle fait paraître de nombreux leads, nombreuses pièces pour piano et même un concerto. Elle épouse en 1840 le célèbre compositeur Robert Schumann, dont elle joue les œuvres, mais rapidement, elle se retrouve seule à élever leurs 8 enfants, d'autant plus que Robert développe des troubles mentaux importants et meurt quelques années plus tard, sans jamais avoir soutenu sa femme dans sa vocation de compositrice. La correspondance de Clara Schumann fait tristement état de la désillusion qui l'a saisie au moment de l'amorçage de sa vie de femme au foyer. Elle écrit dans une lettre: il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur. Mais je suis revenu de cette idée. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire, pourquoi serais-je une exception? Il est arrogant de croire cela, c'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. Sa vie a donc ça de commun avec beaucoup d'autres compositrices qu'elle a menées à l'oubli de son œuvre. On a donc demandé à Clara, Leonardi, pas Clara Schumann, ce que ça révélait de notre société, notre consommation de la musique.
À l'époque, je pense qu'évidemment, ça révèle une forme de machisme. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je pense qu'on est quand même dans une société moins sexiste. Donc, ce que ça révèle avant tout, c'est plutôt, je trouve, un manque de curiosité. Un manque de curiosité dont on fait tous preuve. On reste très attaché à la musique qu'on connaît déjà, à nos habitudes d'écoute. On aime réécouter les mêmes choses. Et c'est assez courant, même en musique classique, d'apprécier d'autant plus une œuvre qu'on la connaît bien. On a du coup une petite tendance parfois à aiguiser notre esprit critique quand on écoute quelque chose de nouveau. Si on ne connaît pas, on va faire plus attention aux petits défauts, on va être plus enclin à critiquer, à repérer l'enchaînement d'accords qu'on n'aime pas trop. Et du coup, tout ça va nous bloquer dans la découverte de nouvelles œuvres, et encore une fois, pas seulement des nouvelles œuvres de femmes. Mais pour le cas des compositrices, oui, les compositrices ont parfois moins composé, elles ont moins composé notamment pour orchestre, mais oui, leurs œuvres sont tout aussi merveilleuses et tout aussi intéressantes que celles de leurs collègues masculins. Quand on fait écouter autour de nous des œuvres de Mel Bonis, on entend vraiment souvent des phrases du genre « c'est très doux, très féminin, très souple, très lumineux », alors qu'en fait, ces pièces ne sont pas plus douces que celles d'un Fauré ou d'un Debussy qui ont écrit la même chose à la même époque, c'était juste une école, et elles ont, je pense, pas moins de valeur. Et ça révèle aussi quand même une forme de préjugé qui demeure profondément ancré en nous. Et enfin, je pense qu'il y a quand même le point de la culture du génie qu'on a encore un peu en musique classique. On a l'impression qu'un compositeur, pour être qualifié de génie, il faut qu'il ait énormément composé, et il faut qu'il ait composé des œuvres monumentales. Le génie, ça va être celui qui a composé plein d'opéras ou qui va avoir composé des énormes symphonies. Et les compositrices, elles ne rentrent pas dans ce moule parce qu'elles ont composé parfois qu'à une période de leur vie, souvent beaucoup de musique de chambre, des petites pièces, parfois qui ont eu du succès et qui se vendaient auprès du grand public. On peut penser aux compositrices de mélodies anglaises, par exemple, mais aussi parfois qui sont restées vraiment très confidentielles. Et ça ne rentre pas du tout dans le moule du génie tel qu'on se l'imagine dans l'imaginaire collectif.
Cela dit, tout n'est pas tout noir. Et beaucoup de mouvements émergent pour lutter contre ça. Composer est une association qui s'inscrit aussi dans un mouvement regroupant des initiatives, comme par exemple Demander à Clara, Schumann cette fois-ci, qui est le nom d'une base de données numérique qui répertorie un immense catalogue d'œuvres de compositrices et qui a pour but d'en faciliter l'accès à tout le monde. On peut parler aussi de personnalités comme Aliette Delalleux, une journaliste indépendante qui met à l'honneur les femmes compositrices sur France Musique, ou à des solistes de renom comme le pianiste David Cadouche ou le violoncelliste Edgar Moreau, qui programment ces œuvres-là dans leurs concerts ou leurs enregistrements. Et une fois que ces morceaux sont sortis de l'oubli, on peut espérer qu'ils n'y retombent pas. Et l'histoire nous a déjà montré qu'en général, ils ne retombaient pas dans l'oubli. Il est vrai de plus que l'arrivée des enregistrements musicaux et des partitions sur Internet, même si ça ne date clairement pas d'hier, a créé un terrain très favorable à la redécouverte d'œuvres, oubliées ou méconnues, d'hommes comme de femmes d'ailleurs. Malgré tout, ce mouvement rencontre beaucoup de vents contraires.
Je pense du coup que le mouvement de tout ce qui est redécouverte concerne beaucoup de compositeurs hommes aussi, ça c'est clair. Le Palazzetto Bruzane par exemple programme énormément d'hommes qui ont un talent fou aussi et qui sont passionnants également. Et pour les femmes, il y a peut-être, mais je ne sais pas si c'est des difficultés qui sont spécifiques aux compositrices, c'est celles que nous on connaît quand on fait nos recherches, mais c'est sûrement des difficultés qu'ont rencontrées des hommes à l'époque aussi. Hein. Mais il y a les difficultés qui sont que les sources sont difficiles à trouver, les manuscrits sont parfois mal conservés parce que ils ont été passés à un lointain cousin ou un lointain héritier qui les a mal conservés, qui n'en a rien fait, qui ne les a jamais déposés à la BNF. On a des partitions qui n'ont pas forcément été éditées, ou si elles l'ont été, les éditions ont pu être perdues aussi. Il y a eu des incendies dans des maisons d'édition qui ont brûlé plein de choses, par exemple. Chez les compositrices, les enregistrements, c'est un vrai obstacle pour les faire connaître, comme c'est des œuvres qui ont souvent été peu jouées. Les personnes qui s'y sont attaquées ne sont pas forcément les interprètes les plus médiatisés ou ceux qui avaient les meilleurs moyens pour le faire, à la fois des moyens techniques et puis les moyens, une bonne prise de son, de temps pour faire un enregistrement de qualité. Donc parfois, il y a des enregistrements qui sont vraiment mauvais et c'est difficile de défendre une compositrice en s'appuyant là-dessus pour la faire écouter. Et ensuite, bien sûr, il y a une forme d'absence de curiosité et de préjugés. Ce que je disais un peu plus tôt, si on ne connaît pas, c'est que ce n'est pas bon, sinon l'histoire l'aurait retenu. Et ça, forcément, ça n'aide pas à redécouvrir les œuvres des compositrices. À notre échelle, au niveau de composeurs, on aimerait agir plus en amont dans le processus de découverte des œuvres par les musiciens. Donc, ça a été un peu impossible en 2020, c'était vraiment compliqué. Mais on aimerait maintenant faire des interventions au conservatoire pour aller présenter à des classes de solfège des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la musique. On trouve que ça manque vraiment et on s'est tous rendu compte en sortant du conservatoire qu'on ne connaissait pas de compositrice et que c'était un vrai manque. Donc, on aimerait agir là-dessus. Et on aimerait aussi pouvoir conseiller de mieux en mieux les interprètes. Et pour ça, on se lance dans un projet de déchiffrage. Beaucoup de membres de notre équipe sont mélomanes et musiciens. Et du coup, on va prendre des partitions qui existent, soit des manuscrits de très bonne qualité, soit des éditions d'époque. Et on va les déchiffrer si elles n'ont jamais été enregistrées. On se fait comme ça une idée d'à quoi l'œuvre ressemble. Et ça peut faire de très belles surprises d'ailleurs. Et comme ça, on a un peu plus confiance en le fait de conseiller ensuite cette pièce à des interprètes. Parce qu'on sait que c'est de la bonne qualité, que c'est quelque chose de beau et que ça va être touchant et une belle redécouverte.
Une question qu'il a fallu évoquer aussi, c'est celle de la polémique soulevée il y a quelques mois par Alice Coffin, qui avait déclaré ne plus vouloir écouter de musique composée par des hommes. Un point de vue qui a beaucoup choqué certains, et du coup on a mis les pieds dans le plat et on a demandé à Clara ce qu'elle pensait, et si oui ou non, le mouvement dont elle fait partie veut cancel Beethoven.
Alors non, on ne veut pas cancel Beethoven. Le point de vue d'Alice Coffin, je pense qu'il est intéressant parce qu'il est volontairement radical et volontairement choquant et provocateur. Et en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est nous amener à réfléchir. Je trouve que ça fait réfléchir parce qu'en fait, énormément de gens qui s'indignent en lisant Alice Coffin n'écoutent que des hommes et ça ne leur pose aucun problème. Donc ça, c'est un souci. Je pense qu'il faut tous qu'on fasse un effort pour connaître notre patrimoine culturel de manière équilibrée et connaître ce qu'ont fait les femmes, ce qu'ont fait les hommes, parce que c'est notre culture, les uns comme les autres. Et ensuite, elle a un autre point de vue, elle dit là-dedans autre chose qui est intéressant, c'est qu'il y a suffisamment d'œuvres de femmes pour pouvoir n'écouter que cela. Et ça, c'est fantastique parce que ça peut faire se rendre compte les gens. Il y a eu énormément de compositrices qui ont énormément composé. Donc, il y a tout ce paysage musical à redécouvrir dont certains n'ont vraiment aucune idée. Et moi, la première, avant composeur, je ne connaissais pas les compositrices. C'est vraiment quelque chose de passionnant en tant que mélomane de pouvoir découvrir tout ce pan de l'histoire musicale qu'on ne connaît pas. Donc ça, pour ça, je trouve qu'Alice Coffin a vraiment le mérite d'avoir dit quelque chose de provocateur qui fait vraiment réfléchir. Cela dit, nous, on n'a pas du tout pour projet de faire renoncer aux chefs-d'œuvre des hommes, d'abord parce qu'on en écoute toujours autant qu'avant et on trouve toujours que c'est formidable, et ensuite parce que tout ce qu'on veut, c'est vraiment découvrir de la belle musique, et découvrir de nouveaux morceaux n'empêche pas d'écouter les anciens. C'est ça qui est important, dont on aimerait que les gens le réalisent. C'est vraiment important d'écouter tout ce qui existe, parce que parfois, on peut avoir des coups de foudre pour des œuvres auxquelles on n'aurait pas pensé. Et du coup, si je devais établir notre projet politique de composeur avec des grands mots, je dirais que c'est vraiment de rétablir la place que les femmes ont occupée et occupent aujourd'hui dans l'histoire de la musique, et d'améliorer la représentation des compositrices en incitant le grand public et les institutions à l'ouverture, à la curiosité, à l'engagement. Et puis, du côté plutôt des interprètes, c'est de réduire les inégalités hommes-femmes dans le milieu de la musique classique. Et ça, c'est encore un autre chantier qui est moins lié aux compositrices, mais qui est tout aussi important.
Et effectivement, on a vu tout au long de cet épisode que les questions soulevées par la situation des compositrices sont intimement liées aux problématiques de genre dans la musique classique et sa pratique, et donc à la question des instrumentistes, des chercheurs et chercheuses, et de tout ce microcosme de manière générale. C'est un sujet passionnant et en fait brûlant d'actualité alors qu'on en entend peu parler, dont on espère vraiment vous parler très bientôt dans un épisode 2. En attendant, on remercie infiniment Clara Leonardi pour son temps, et on vous met en description le site de l'association Composeur, ainsi qu'un lien vers des playlists Spotify que l'association réalise pour faire découvrir à tous la musique des compositrices. Et on vous remercie également vous d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire parvenir toutes vos remarques, critiques ou pensées sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ou via notre adresse mail que nous mettons à votre disposition, alaloupepodcast@gmail.com. Nous vous remercions d'avoir écouté en tout cas, et à bientôt.